Bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, on se penche sur le paysage universitaire parisien. C'est assez impressionnant. On parle de plus de 322 000 étudiants.
Ah oui, c'est une densité énorme, une des plus fortes en France.
Notre objectif, c'est d'essayer d'y voir un peu plus clair, hein, comprendre comment tout ça s'organise aujourd'hui et d'où ça vient aussi.
Tout à fait. C'est un paysage qui est non seulement dense, mais aussi très marqué par l'histoire et en même temps en pleine réorganisation.
D'accord.
Pour comprendre ce qui se passe maintenant, il faut regarder un peu en arrière, c'est indispensable.
Alors commençons par le présent, si vous voulez bien. Paris Intramuros. Là, qu'est-ce qu'on trouve? Il y a des noms très connus?
Oui, alors on a d'abord des universités, disons, historiques dans leur dénomination actuelle, issues de la scission de 1970. Je pense à Panthéon-Sorbonne, Paris 1.
Oui.
Panthéon-Assas, Paris 2, plutôt droit. Sorbonne-Nouvelle, Paris 3, langue et art.
Et puis les nouvelles venues, enfin les nouvelles structures issues de fusion.
Exactement. Et c'est là que ça devient particulièrement intéressant ces dernières années. Prenez Sorbonne Université. Ça, c'est le résultat de la fusion entre l'ancienne Paris-Sorbonne, Paris 4 donc, très lettres et sciences humaines, et Pierre et Marie Curie, Paris 6, qui était le pôle scientifique majeur.
D'accord, donc on marie les lettres et les sciences.
Voilà. Et on a un autre exemple très parlant, Université Paris-Cité.
Oui.
Là, c'est la fusion de Paris-Descartes-Paris 5, très santé, sciences humaines et sociales, et Paris-Diderot. Paris 7, plutôt sciences, lettres et santé aussi.
Encore des regroupements massifs, en fait.
Oui, l'idée, c'est clairement de créer des ensembles plus grands, plus pluridisciplinaires et surtout plus visibles à l'international. C'est une tendance très nette.
Et il y a aussi PSL, Paris Sciences et Lettres. Alors ça, c'est encore différent, non? Ce n'est pas une fusion classique.
Non, c'est ça. PSL, c'est ce qu'on appelle un établissement public expérimental. C'est une structure qui permet de regrouper des institutions très différentes.
Ah oui?
Oui, vous avez l'ancienne université Paris-Dauphine, qui est devenue elle-même un grand établissement, mais aussi des écoles très prestigieuses, comme l'ENS Ulm, les Mines, les SPCI.
D'accord. Donc là, le but, c'est aussi la taille critique, la renommée, mais par un autre moyen.
Exactement. Un autre modèle pour agréger des forces et peser au niveau mondial. Et Dauphine, en devenant grand établissement au sein de PSL, garde une certaine autonomie.
Et on ne peut pas parler de Paris intramuros sans citer Sciences Po, bien sûr.
Évidemment. L'Institut d'études politiques de Paris, mondialement connu, qui a aussi ce statut de grand établissement, d'ailleurs. Très autonome.
Et il n'y a pas que le public, j'imagine.
Non, bien sûr. Il faut mentionner l'Institut catholique de Paris, l'ICP, qui est assez ancien, créé en 1875. Et puis des présences internationales comme l'American University of Paris ou un campus de l'University of London.
D'accord. Donc ce phénomène de regroupement qu'on voit dans le public depuis quoi, une dizaine, quinzaine d'années?
Oui, depuis les années 2010 surtout. C'est vraiment pour mutualiser les moyens, notamment en recherche, et pour mieux se positionner dans les fameux classements internationaux.
Les classements de Shanghai, etc.
Voilà, qui sont devenus un enjeu majeur pour attirer les talents, les étudiants étrangers, les financements.
Bon, et si on sort un peu de Paris même, juste de l'autre côté du périphérique, en petite couronne, voire un peu plus loin?
Ah ben là, le paysage s'élargit considérablement. On trouve d'autres très grosses structures.
Comme?
Au sud, il y a le mastodonte Paris-Saclay, une opération énorme qui a absorbé l'ancienne Paris-Sud, Paris-11i, et qui regroupe là aussi universités, grandes écoles, organismes de recherche sur un plateau immense.
D'accord. Encore un regroupement géant.
Oui. À l'ouest, on a Paris-Nanterre, l'ancienne Paris 10. À l'est, Paris-Escrétaille, l'UPEC, ex-Paris 12. Et puis l'université Gustave Eiffel, qui est elle aussi issue d'une fusion plus récente, intégrant Paris-Est, Marne-la-Vallée.
Et au nord?
Alors, on a Sorbonne-Paris-Nord, l'ancienne Paris 13 à Villette-Neuse, et puis il y a aussi CY-Sergy Paris Université et l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, l'UVSQ. On voit que le mouvement de réorganisation touche toute la région.
C'est fou ce mouvement permanent. Comment on explique tout ça? D'où viennent ces numéros qu'on entend encore parfois, Paris 1, Paris 2?
Alors, pour comprendre, il faut faire un petit saut dans le passé. Il y a très longtemps, il y avait une seule, grande et très célèbre Université de Paris, née au Moyen-Âge, au XIIe siècle.
La Sorbonne originelle, en quelque sorte.
Oui, le cœur historique. Mais cette université médiévale a été supprimée à la Révolution française en 1793.
Ah oui, quand même.
Ensuite, au XIXe siècle, les facultés ont été recréées, mais de façon séparée. Et c'est seulement en 1896 qu'une nouvelle université de Paris unique a été refondée en regroupant ses facultés.
D'accord. Et c'est cette université-là, celle de 1896, qui a explosé.
C'est exactement ça. Le grand tournant, c'est 1970. Suite aux événements de mai 68, et surtout face à l'explosion du nombre d'étudiants, la fameuse massification,
oui.
On décide de scinder cette université de Paris unique en 13 universités autonomes et pluridisciplinaires. C'est là que naissent Paris 1, Paris 2, jusqu'à Paris 13.
Ah, d'accord. C'est l'origine des numéros.
Le but, c'était quoi alors? Gérer la taille, moderniser?
Les deux, en fait.
Gérer l'afflux d'étudiants qui rendait l'ancienne structure ingérable, et aussi donner plus d'autonomie, peut-être créer des pôles plus spécialisés, répondre aux critiques de mai 68 sur une université trop rigide. C'était une logique d'éclatement, de décentralisation.
Donc, si je résume, une université unique, très ancienne, supprimée, recréée, puis éclatée en 13.
C'est ça.
Et aujourd'hui, on assiste à un mouvement inverse de reconcentration, de regroupement.
C'est une très bonne lecture des événements. Après la phase d'éclatement post-70, on est clairement, depuis 15 ans, dans une phase de reconcentration sous de nouvelles formes. D'ailleurs, plusieurs des universités créées en 70 n'existent plus sous ce nom aujourd'hui.
Ah oui, lesquelles?
Paris 4, Paris Sorbonne, Paris 6, Pierre et Marie Curie, sont dans Sorbonne Université, Paris 5, Descartes, et Paris 7, Diderot, dans Paris Cité, Paris 11, Paris Sud, dans Paris Saclay, Paris Est, Marne-la-Vallée, dans Gustave Eiffel. Elles ont été absorbées par ces nouveaux ensembles.
Donc les motivations ont vraiment changé entre 1970 et aujourd'hui?
Oui, radicalement. En 70, c'était gérer la masse et moderniser. Aujourd'hui, l'enjeu principal, c'est la compétition mondiale. La course à la taille critique pour exister sur la scène internationale.
La visibilité, l'attractivité.
Voilà. Attirer les meilleurs chercheurs, les étudiants brillants du monde entier, capter les financements pour la recherche de pointe. Il faut créer des marques universitaires fortes et reconnues globalement.
Bon, alors pour conclure, que peut-on retenir de tout ça? On a un système universitaire parisien qui est extrêmement riche, foisonnant.
Oui, avec des racines historiques très profondes.
Mais surtout en perpétuel mouvement. C'est un peu un organisme vivant, avec ses cycles de scission, puis de fusion. C'est assez fascinant.
Tout à fait. Et ça soulève une question importante pour l'avenir, je crois.
Laquelle?
Cette quête de la taille critique, de la performance dans les classements mondiaux à travers ces méga-universités, est-ce qu'elle parviendra à trouver un équilibre durable? Un équilibre avec, disons, l'identité propre, la culture, l'histoire de chaque composante qui est agrégée.
Concilier la puissance et l'âme, en quelque sorte.
C'est un peu ça, oui. C'est peut-être le grand défi caché derrière toutes ces réorganisations structurelles. Une question qui restera ouverte, sans doute.
Une belle matière à réflexion pour terminer. Merci beaucoup pour cet éclairage.
Avec plaisir.